Chapitre 15. Nous espérons que le lecteur qui nous suit dans cette étude apprécie de plus en plus le caractère de ces deux hommes, de sorte que, lorsque rivaux, ils se trouveront en face l'un de l'autre, leurs actes suffiront et n'auront plus besoin de commentaires. Au reste, si Pompée hésita d'accepter le commandement, l'hésitation ne fut pas longue. Il rassembla ses vaisseaux, rappela ses gens de guerre, manda près de lui les rois et les princes compris dans l'étendue de son gouvernement, entra en Asie et débuta, comme d'habitude, par bouleverser tout ce qu'avait fait son prédécesseur, et, qu'on ne l'oublie pas, ce prédécesseur était Lucullus, c'est-à-dire un des hommes les plus considérables de la République. Lucullus entendit bientôt dire que Pompée ne laissait rien subsister de ce qu'il avait fait, qu'il remettait les peines, enlevait les récompenses, disant et prouvant enfin que Lucullus n'était plus rien et que lui seul était tout. Lucullus n'était pas homme à boire ainsi cette liqueur amère que l'on appelle le mépris. Il fit, par des amis communs, porter ses plaintes à Pompée et il fut convenu que les deux généraux auraient une conférence et que cette conférence aurait lieu en Galatie. Ils s'avancèrent donc au-devant l'un de l'autre, les lecteurs portant les faisceaux, et comme c'étaient des vainqueurs de l'une et d'autre part, les faisceaux étaient entourés de branches de laurier. Or il arriva ceci, c'est que Lucullus arrivant d'un pays fertile et Pompée tout au contraire d'un pays aride et sans arbres, les lauriers des lecteurs de Lucullus étaient frais et verdoyants, tandis que ceux des lecteurs de Pompée étaient jaunes et desséchés. Ce que voyant les lecteurs de Lucullus, ils donnèrent aux lecteurs de Pompée la moitié de leurs lauriers fraîchement cueillis. À la vue de cette courtoisie, quelques-uns sourirent. « Bon, dirent-ils, voilà encore une fois Pompée qui se couronne de lauriers qu'il n'a pas cueillis. » L'entrevue, qui fut d'abord courtoise et pleine de convenances, dégénéra bientôt en discussion et la discussion en dispute. Pompée reprocha son avarice à Lucullus. Lucullus reprocha son ambition à Pompée. Celui-ci, oubliant les compliments qu'il venait de faire à son rival, décria bientôt ses victoires. « Belle victoire, disait Pompée, que celle remportée sur les armées de deux rois qui, voyant que l'or ne sert de rien, ont recours enfin à l'épée et au bouclier. Lucullus a vaincu l'or, il me laisse combattre le fer. » « Cette fois encore, disait Lucullus de son côté, l'habile et prudent Pompée agit selon ses habitudes. Il arrive lorsqu'il ne reste plus qu'un fantôme à vaincre. Il fait dans la guerre de Mithridate ce qu'il a fait dans celle de Lépidus, de Sertorius, de Spartacus, dont il s'est attribué les défaites, quoique ces défaites fussent l'ouvrage de Métellus, de Catulus et de Crassus. Est-ce que Pompée ne serait à tout prendre qu'un oiseau lâche, une espèce de vautour qui serait accoutumé à se jeter sur les corps qu'il n'a pas tués, une manière d'hyène et de loup, déchirant à belles dents les restes de la guerre? Privé de tout commandement, n'ayant plus que 1800 hommes qui consentissent à lui obéir, Lucullus revint à Rome. Quant à Pompée, il se mit à la poursuite de Mithridate. Il faut suivre dans Plutarque cette longue et rude campagne où Mithridate, enfermé dans des murailles que Pompée bâtit autour de lui, tue les malades et tous les hommes inutiles et disparaît sans qu'on sache quels oiseaux ont prêté leurs ailes à ses soldats pour qu'ils s'envolent par-dessus les murs. Pompée le poursuit. Il l'atteint près de l'Euphrate au moment où Mithridate rêve que, naviguant sur le pont Euxin par un vent favorable et apercevant déjà le Bosphore, tout à coup son navire se brise sous ses pieds et ne lui laisse que des espars pour se soutenir sur les flots. Il en est là de son rêve quand ses généraux entrent dans sa tente tout effarés et lui crient « Les Romains !» Alors il faut se résoudre à combattre. On court aux armes, on se range en bataille. Mais tout est contre le malheureux roi de Pont. Les soldats de Pompée ont la lune derrière le dos. Il en résulte que leurs ombres grandissent démesurément. Les soldats de Mithridate prennent cette ombre qui s'avance vers eux pour les premiers rangs des Romains. Ils lancent leurs flèches et leurs javelots qui frappent le vide. Pompée s'aperçoit de l'erreur des barbares et les fait charger en poussant de grands cris. Ceux-ci n'osent pas même l'attendre. Il leur tue ou leur noie 10 000 hommes et s'empare de leur camp. Où est Mithridate? Dès le commencement du combat, Mithridate, avec 800 esclaves lancés au galop, s'est fait jour à travers l'armée romaine. Il est vrai qu'arrivés de l'autre côté, ses 800 cavaliers sont réduits à 3. Deux de ces 3 survivants sont, l'un Mithridate lui-même, Ipsicratia, une de ses maîtresses, si brave, si vaillante, si courageuse, que le roi l'appelle non plus Ipsicratia, mais Ipsicrate. Ce jour-là, vêtue d'un costume persan, montant un cheval perse, combattant avec des armes persanes, elle ne quitta pas une seconde le roi, qu'elle défendait de son côté, tandis que celui-ci la défendait lui-même. Au bout de 3 jours de course à travers le pays, 3 jours pendant lesquels la vaillante Amazone servit le roi, veilla sur son sommeil, pansa son cheval, au bout de 3 jours, tandis que Mithridate dormait, on arriva à la forteresse d'Innova, où étaient ses trésors et ses effets les plus précieux. On était sauvé, momentanément du moins. Mais Mithridate comprenait que c'était la dernière halte avant d'arriver à la tombe. Il fit ses suprêmes largesses, partageant entre ceux qui lui étaient restés fidèles, l'argent d'abord, les vêtements ensuite, et enfin le poison. Chacun le quitta, riche comme un satrape, sûr de sa vie si l'on vivait, sûr de sa mort si l'on voulait mourir. Puis l'illustre vaincu partit pour l'Arménie. Il comptait sur son allié Tigrane. Tigrane non seulement lui refusa l'entrée de ses états, mais encore mit sa tête à prix à 100 talents. Mithridate remonta l'Euphrate, le passa à sa source et s'enfonça dans la Colchide. Pendant ce temps, c'est-à-dire pendant que Tigrane fermait ses états à Mithridate, son fils les ouvrait aux Romains. Pompée et lui recevaient les villes qui se soumettaient lorsque le vieux Tigrane, que Lucullus venait de battre, apprenant la mésintelligence qui régnait entre les deux généraux, eut espoir dans ce qu'on lui avait dit du caractère facile de Pompée et apparut un matin avec ses parents et ses amis en vue du camp romain. Mais à l'entrée de ce camp, il rencontra 2 licteurs de Pompée qui lui ordonnèrent de descendre de cheval et de continuer sa route à pied, nul roi ennemi n'étant jamais entré à cheval dans le camp des Romains. Tigrane fit plus. En guise de soumission, il ôta son épée et la donna au licteur. Puis, quand il fut devant Pompée, il détacha son diadème qu'il mit à ses pieds. Mais Pompée le prévint. Il prit Tigrane par la main, le conduisit dans sa tente et le fit asseoir à sa droite, tandis que son fils s'asseyait à sa gauche. « Tigrane, lui dit-il alors, c'est à Lucullus que vous devez les pertes que vous avez faites jusqu'à présent. C'est lui qui vous a enlevé la Syrie, la Phénicie, la Galatie et la Sophène. Je vous laisse, moi, tout ce que vous aviez lorsque je suis entré dans vos états, à la condition que vous payerez aux Romains 6000 talents pour réparer le tort que vous leur avez fait. Votre fils gouvernera le royaume de Sophène. » Tigrane, enchanté, promit à chaque soldat une demi-mine, 10 mines à chaque centurion et 1 talent à chaque tribun. Mais son fils, qui avait cru recevoir l'héritage de son père qu'il avait trahi, fut moins enchanté du partage et, aux envoyés qui venaient de la part de Pompée l'inviter à souper, il répondit « Grand merci à votre général des honneurs qu'il me fait, mais je connais quelqu'un qui me traitera mieux que lui. » 10 minutes après, le jeune Tigrane était arrêté, chargé de chaînes et réservé pour le triomphe.